RCF. Et si quelques gestes changeaient notre monde, des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement ? Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Vous écoutez Graines d'idées, le podcast de RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part.
Eh bien bonjour, bonjour pour ce nouveau Graines d'idées. Dans cet épisode, nous vous emmenons en mer, nous vous emmenons loin. Nous allons aller jusqu'en Afrique et nous allons visiter la mangrove. Visiter la mangrove pour son aspect écologique, pour la nature, mais surtout pour ses habitants. Et pour ça, je reçois Marlène Beka et Yegor Tarelkin. Bonjour les amis.
Bonjour. Audrey.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Extraordinairement.
Vous revenez de loin? Vous êtes parti en bateau jusqu'en Afrique, c'est ça ?
Jusqu'en Afrique et plus loin d'ailleurs. On est parti de Bruxelles l'année passée, en juin 2022. Et on a navigué d'abord le long de toutes les côtes européennes. C'était nouveau pour nous parce qu'on ne savait pas vraiment naviguer avant de partir. Donc l'apprentissage était sévère, on va dire. Et puis effectivement, on a fait une première grosse escale en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Gambie. On y est resté pendant 3 mois jusque fin décembre de l'année passée et puis on s'est mis en route pour la transatlantique et on a traversé l'océan avec notre petit bateau jusque dans les Caraïbes.
Alors le petit bateau c'est Sabali. Sabali c'est aussi le nom de votre aventure, de votre expédition. Si on va sur votre site internet, sur YouTube, c'est Sabali Expédition, je me trompe pas ?
Tout à fait, c'est aussi le nom d'une chanson de Amadou et Mariam. Qui a d'ailleurs inspiré tout le reste.
Ça, il faudra qu'on en parle. Mais avant ça, moi, ce que j'aime bien dans Graines d'idées, évidemment, c'est de parler des petits gestes et des grands gestes qui font l'écologie. C'est la part du colibri, en fait. C'est ça, Graines d'idées, c'est de se dire, OK, il y a des colibris qui font beaucoup, il y a des colibris qui font un peu plus, mais on va tous dans le même sens. Vous, je pense que vous êtes déjà très, très loin. Mais quelle est l'origine du projet ? À la base, vous êtes tous les deux bruxellois ?
Tous les deux bruxellois, on a été à l'école, on était à l'université à Bruxelles, donc presque pur produit de la ville. Après nos études, on a commencé à avoir une carrière professionnelle qui nous a quand même permis de pas mal voyager, je pense, Marlène plus que moi. Par le hasard de choses, on s'est retrouvés à Bruxelles pour une partie de cette fameuse carrière tous les deux et on avait envie d'autre chose, en fait. On avait envie de grands espaces, de peut-être d'autonomie aussi, d'être face à la nature. Et voilà, on se demandait comment on allait goupiller tout ça. On pensait peut-être faire un truc en van ou juste un voyage itinérant. Mais bon, on avait aussi envie quand même que ce ne soit pas juste un voyage touristique, mais un projet qui a un sens pour nous, qui ait un impact positif au sens large. Et voilà, de fil en aiguille, on a réussi à identifier le bateau comme vecteur, et la partie scientifique, la partie communication, la partie sensibilisation pour le changement, plutôt contre le changement climatique, comme but du voyage en tant que tel.
Mais avant d'aller plus loin, tous les deux, est-ce que vous aviez déjà des formations scientifiques, Marlène ?
Alors moi pas du tout. Moi à la base je suis avocate. Moi j'ai étudié le droit international et puis la politique internationale, les conflits armés, le droit humanitaire. Rien à voir.
Peut-être intéressant pour quand vous arrivez dans les ports et savoir dans quelle zone vous pouvez aller ou non, si l'actualité internationale est encore à jour.
Voilà, mais c'est vrai que par contre, grâce à ça, à cette formation-là, moi j'ai travaillé du coup dans le secteur humanitaire pendant quelques années. Et ça m'a quand même mené à avoir, comme Igor l'a dit tout à l'heure, mais voilà, moi j'ai eu la chance de voyager avec mon travail et de voir pas mal de contextes différents, dont certains qui subissaient déjà en fait les conséquences du dérèglement climatique, des désertifications, pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'agriculture finalement. Et voilà, du coup, moi, la thématique environnementale et ce qu'on appelle la résilience au changement climatique m'ont beaucoup touchée à travers mon métier. Donc pas du tout scientifique à la base, mais eu l'occasion de me pencher sur cette question un peu différemment.
Et vous, Igor, un profil un peu plus scientifique ?
Ah oui, moi je suis complètement dedans.
Il me semble bien, je pose la question en sachant.
Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai fait des études de bio-ingénieur parce que déjà à l'époque je me sentais je vais pas dire concerné, mais j'avais envie de faire quelque chose par rapport à cette histoire de changement climatique, si on peut s'exprimer ainsi. Mais par contre, au cours de mes études, voilà, j'ai réalisé que c'est ça nous donne une vision très technique, ce qui est très bien parce que, enfin, sur le terrain, c'est le côté technique qui l'emporte, mais que les grandes décisions et les grandes stratégies, c'est pas par les techniciens qu'elles sont prises, c'est dans les hautes sphères de pouvoir auxquelles, en tant que technicien, on n'avait pas spécialement accès.
Et donc, ça vous a servi quand même?
Ah, mais ça nous sert tous les jours, et puis au-delà de ça, c'est aussi une formation d'ingénieur qui permet, je pense, d'un peu plus facilement appréhender tout ce qu'il faut faire sur le bateau, dans les travaux, peut-être aussi une espèce d'analyse ou de lecture de patterns météo et ce genre de choses.
On voit ça dans votre chaîne YouTube, hein, que j'ai parcouru. On voit les besoins de savoir vers quoi on va aller par rapport au climat. Vous parliez de l'état du bateau aussi, hein, directement l'un et l'autre. Finalement, vous avez évoqué le sujet. Sabali, quand vous l'avez acheté, ben, c'était un peu l'espoir fou. Et puis, il y a eu une petite désillusion, je me trompe pas?
Oh. Alors, je ne sais pas si c'est une désillusion, mais plutôt un rappel à la réalité. Parce que c'est vrai qu'on on était conscient de se lancer dans une aventure un peu dingue. On achète un bateau alors qu'on ne sait pas faire de bateau encore à ce moment-là. On écume les sites internet, on apprend une nouvelle langue parce que les marins parlent leur propre langue, ça c'est sûr. Donc, c'était vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et finalement, acheter un bateau sans vraiment pouvoir comprendre les vis qui pouvaient l'affecter aussi. Et je pense qu'on avait l'air tous les deux de jeunes naïfs à arriver à acheter un bateau comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes, on va dire, sur le bateau après l'avoir acheté. Beaucoup de choses qui ont cassé. Après, c'est un vieux bateau. Même les nouveaux bateaux sont criblés de casses et de problèmes. Donc le bateau, à la base, c'est une histoire de problème.
Mais
à
vous
régler.
Racontez tout ça dans un épisode et au final, tout finit bien, j'ai envie de dire, et vous pouvez vraiment partir dans votre aventure. Voilà ce qu'on va vraiment aborder là dans l'objet du podcast. Et donc, avec ce bateau, vous remontez vers la Belgique, si je ne me trompe pas, pour alors entamer vraiment votre voyage vers l'Afrique et vers l'Amérique.
Oui, tout à fait. Donc, entre le moment où on a remonté le bateau, on dit en jargon marin, convoyé. On a convoyé le bateau depuis Marseille vers Bruxelles et notre départ, il s'est passé plus d'un an. Un an de travaux, de larmes, de doutes, de tout ce qu'il faut. Mais ça s'est effectivement bien passé. Tout est bien qui finit bien. On a pris le départ. Et depuis, effectivement, on est sur la route. Hein. D'abord, on a visé le sud, puis on a visé l'ouest. Et il nous a fallu quoi, 3 mois pour 4 mois pour rejoindre l'Afrique depuis Bruxelles, avec des stops. Évidemment, c'était pas une navigation sans arrêt. On a pris notre temps. On a aussi commis quelques erreurs. Évidemment, c'était le début. Hein. Et voilà, fin septembre, on démarre de Lanzarote pour rallier Dakar. Et là, c'est notre première grosse traversée, c'est 1000 milles nautiques, environ 1800 kilomètres. Et ça représente environ une semaine de navigation avec tous les challenges de météo changeante, on parlait de justement contextes internationaux, on nous avait un petit peu fait peur avec des histoires de piraterie. À juste ou pas juste titre, ça on n'en saura jamais, mais toujours utile que voilà, nous ça nous a quand même assez fort marqué, quoi. On a eu quelques péripéties en lien avec ça pendant le voyage. Et puis on arrive à Dakar et là c'est un nouveau chapitre de notre aventure qui démarre.
Avant qu'on arrive à Dakar, quand même vous êtes un couple et un couple soudé, souriant. Enfin c'est l'impression que j'en ai hein, de vous recevoir ici. Merci d'être là d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a un qui parfois tracte l'autre ou bien c'est un jour qui est plus positif et l'autre moins positif? J'imagine malgré tout. Alors vous êtes souriant et je vois que vous nous ramenez des choses intéressantes et que vous en parlez dans les écoles. Mais est-ce que parfois il faut se relancer?
Oui, je pense que c'est humain en fait. C'est sûr que c'est pas je vais faire un peu des analogies de marin, mais c'est pas un long fleuve tranquille de vivre sur un bateau. Ça vous met à rude épreuve quand même. Et c'est vrai qu'en tant qu'équipe, donc couple, mais vraiment aussi équipe sur un bateau, il en faut toujours un des deux qui tienne bon. Je pense que dans l'ensemble, on a réussi à faire ça, à faire cet exercice de se tirer l'un l'autre. Je crois que globalement, quand même, on était très heureux de cette année, malgré les défis, malgré les challenges. Tous les matins, quand on se levait, même si c'était pas toujours simple, on était content d'être là, en fait, et on savait qu'on était là pour une raison. Donc, on n'a jamais douté, en fait, de notre place. Et je pense que ça, déjà, c'est un luxe qu'on a, quoi. Et oui, c'est vrai que bien sûr, hein, le bateau il casse, la météo est pas bonne. Il y a des incidents dans le monde des bateaux aussi, avec un voilier qui dérape et qui vient cogner le vôtre, etc. Donc ça peut arriver des petites bêtises comme ça qui font que votre morale en prend un petit coup. Mais globalement, franchement, je pense qu'on a tous les deux été assez voilà, assez fort mentalement vu les défis qu'on a relevés, parce que franchement, ça peut avoir l'air sympa comme ça sur Instagram et sur YouTube, mais c'est quand même une vie de défi.
C'est bien de le dire, mais c'est aussi bien d'avoir une chaîne où c'est positif. Ça donne envie de vous suivre. Vous avez beaucoup quand même de personnes qui vous suivent. Ben, ça, non, franchement, c'est très très bien. Je pense que les auditeurs se disent, mais comment est-ce qu'un jeune couple peut partir comme ça avec un bateau? Alors certes, vous avez racheté un bateau qui avait déjà vécu, mais comment vous arrivez à survivre entre guillemets, en tout cas la partie financière? Comment ça se passe?
Ah, ça se passe avec beaucoup de privations pour commencer, hein. Donc avant même de parler du projet, il y a la genèse du projet, le fait de le rendre possible, le fait d'accéder à un bateau. Voilà, on a expliqué les métiers qu'on faisait, c'était pas des métiers dans la finance ou de gestion, de management quelconque. Donc on a, on a eu une vie frugale pendant un petit moment, et notre seul objectif c'était vraiment de trouver un bateau, et donc on passait des heures et des heures à écumer les sites. Évidemment, à se restreindre au niveau budget aussi, parce que dans les bateaux, enfin, ça peut monter très très vite, et y a pas de limite. Heureusement, il y a aussi beaucoup de choses accessibles, hein. Donc voilà, on a identifié nos besoins, on a identifié nos possibilités, on a essayé de faire une réconciliation entre les deux, et on est tombé sur une gamme très très restreinte de bateaux qui nous étaient accessibles, mais qui n'étaient pas spécialement toujours présents sur le marché. Donc puis le coronavirus qui nous a permis aussi, on n'est pas.
Vous étiez en plein dedans.
Ah oui, c'est totalement, hein. Donc en un sens, heureusement pour nous, parce que tout l'argent superflu entre guillemets, on l'a mis de côté jusqu'au moindre centime pour pouvoir l'injecter dans le bateau après, quoi. Et en ce qui concerne le projet, bah là c'est une vie de débrouille en permanence, quoi. C'est si ça concerne le bateau, enfin les réparations et le matériel en général, c'est très très coûteux, donc on essaye toujours de faire les travaux nous-mêmes quand, en tout cas, nos capacités techniques le permettent. Dans la mesure du possible aussi, on essaie de recycler les différents matériaux ou différents appareils. Et bon, voilà, on essaie aussi d'établir des contacts avec différents bailleurs de fonds, différents sponsors.
C'est ça, vous avez des sponsors. On les voit sur votre site internet, ils sont tout en bas. Vous avez quand même quelques sponsors qui peuvent vous aider à réaliser cette très belle aventure.
Grâce à eux, merci, oui.
On les remercie, on ne va pas les citer malheureusement, mais on les remercie. Et ce que je peux dire, c'est d'aller sur votre site. On peut déjà donner le nom de votre site, hein, n'ayez pas peur, on est là pour ça.
Allez, ben alors c'est www.sabaliexpedition.com.
Avec
un tiret entre les deux.
On va mettre tout ça sur la page Facebook de Graines d'idées, sur la page Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On a mis un peu de temps pour expliquer tout ça, mais c'était important aussi. Qu'est-ce que vous avez pu faire en Afrique? Qu'est-ce que vous avez pu trouver dans cette mangrove? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à nos chères têtes blondes lorsque vous les rencontrez dans vos conférences? Parce que c'est ça que vous êtes venu refaire en Belgique. C'est un tour de quelques écoles pour expliquer votre aventure et cet aspect écologique qu'elle a prise. Alors, Marlène, Yegor, qui explique?
Je peux commencer et tu me complètes?
Ouais.
Alors, il faut se dire que on a deux grands aspects à nos interventions dans l'école, on va dire. Le premier aspect, c'est en fait un jeu qu'on a créé avec Yegor, une espèce de jeu de rôle. On divise la classe en équipages. Chaque équipage part dans un coin du monde et part étudier une thématique en lien avec la conservation marine, en fait, dans cette zone du monde. Notamment, il y a un équipage qui part toujours au Sénégal pour étudier les mangroves. C'est ce que nous, on a fait, donc on l'a inséré dans le jeu. Et la première partie du jeu consiste vraiment à arriver sur Terre. Et donc, on donne des cartes de navigation plus ou moins simplifié aux élèves, avec des informations sur la météo. On leur donne quelques petits indices, et un peu comme dans un jeu de rôle, donc ils doivent arriver sur Terre, ils doivent constituer une route ensemble, se poser des questions en lien avec la météo, les tempêtes, etc., et arriver sur Terre.
Là, vous les mettez dans la peau de navigateur.
Exactement. On s'est dit que c'était une manière de rendre la chose un peu ludique, parce que parler d'environnement et de climat avec des jeunes de deuxième secondaire, ça peut aussi parfois être compliqué. Ils nous l'ont dit eux-mêmes, le terme éco-anxiété est déjà présent sur les bancs de classe, donc c'est quelque chose qui leur fait peur, qui génère pas toujours de l'espoir. Et nous, on avait envie de rendre la chose un peu légère, en fait, un peu ludique et aborder ces questions de manière non dramatique. C'était un peu l'idée. Et donc voilà, une fois qu'ils arrivent sur Terre après ce jeu de navigation, ils partent avec leur professeur. Là, nous, on n'est plus là à ce moment-là, mais ils partent avec leur professeur pour réaliser un travail de recherche sur leurs ordinateurs dans la salle de l'école. Et ils doivent constituer un travail sur le sujet. Donc, par exemple, pour les mangroves, on va leur demander, voilà, à quoi sert cet écosystème, quels sont les défis auxquels ces écosystèmes font face, quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui. Et ils vont essayer de compiler tout ça et de le produire sous forme de travail un peu créatif. Donc on a eu des très très chouettes trucs sous forme de cartes au trésor enroulées, mises dans la bouche d'un requin en papier. Enfin, c'était vraiment rigolo.
La création est au rendez-vous.
Exactement.
La créativité.
Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et ça leur permet en fait de se pencher sur ces sujets. Donc il y a les coraux, les microplastiques, la surpêche, et notamment voilà les mangroves, les sargasses. Enfin, tout un tas de thématiques en lien avec la conservation marine. Et donc ça, c'est la première partie de nos ateliers en école. Et la deuxième partie, c'est la diffusion de notre film documentaire qu'on a réalisé cette année, justement, quand on était en Afrique de l'Ouest, sur les populations qui vivent dans la mangrove et qui vivent de la mangrove aussi, en fait. Donc depuis toujours, elles utilisent cette ressource pour assurer leur subsistance. Et il y a vraiment pas mal de projets qui sont mis en œuvre pour essayer de vivre dans la mangrove sans la détruire, en fait, et de pouvoir avoir vraiment une relation qui soit bénéfique pour les deux, pour la mangrove et pour l'humain. Donc on a vraiment essayé de mettre ça en avant à travers notre film documentaire donc qu'on montre dans les écoles.
Alors Yegor, la mangrove, c'est un vivier, c'est une ressource naturelle inépuisable.
Au risque d'enfoncer les portes ouvertes pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est une mangrove, on a réalisé beaucoup de fois que les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc ce sont des forêts qui poussent, entre guillemets, les pieds dans l'eau. Donc la mangrove est un arbre, mais est aussi un écosystème. Le palétuvier est un synonyme pour la mangrove. Ça ne se trouve que dans la zone intertropicale, donc Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, mais aussi les Antilles, Amérique du Sud. Chez nous, on en a malheureusement pas.
C'est pas tout à fait le climat ni la zone.
Exactement, mais bon, on a quand même la côte, hein, mais pas la température. Bref, donc et effectivement, comme vous disiez, c'est un écosystème extrêmement riche. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'espère que je dis pas une bêtise, mais je pense que un quart de la faune aquatique se reproduit dans les mangroves et donc a besoin de cet écosystème pour simplement assurer les stocks marins de toute une série de poissons ou d'autres mammifères. Aussi les crabes qu'il y a dans la mangrove, donc qui ont aussi un rôle extrêmement important dans l'équilibre de cet écosystème. Et puis la productivité des arbres aussi, hein, donc qui sont utilisés par les populations locales pour toute une série de leurs besoins quotidiens. On parle de bois énergie, on parle aussi de bois de construction, de la pharmacopée, de l'agriculture qui aussi dépend en un sens de la mangrove et donc de cet équilibre écologique. C'est vraiment, enfin, on pourrait en parler des heures rien que des bienfaits de la mangrove, mais je pense que là on dresse déjà un constat ou un tableau assez global dans le sens, voilà, les gens qui vivent à la côte et qui ont qui dépendent justement donc de ces écosystèmes tant marins que côtiers, ils ont besoin de la mangrove pour survivre tous les jours.
Il y a une chose peut-être qu'on s'imagine pas, nous Européens, par rapport à la mangrove. J'imagine que c'est quand même des grands espaces de palétuviers, puis après peut-être quand même quelques espaces où il y en a pas. Enfin, la mangrove, est-ce qu'elle est continue le long d'une côte, ou bien il y a quand même des criques où on trouve pas de mangrove? Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a pas deux arbres et puis du vide complet, mais que c'est des ensembles. Comment vous nous expliqueriez physiquement la mangrove pour partager ça aux auditeurs?
Alors il faut réaliser que la mangrove, donc elle est assez fort inféodée à ce mouvement de marée. Donc il faut qu'il y ait ce cycle de montée et descente des eaux. Donc on peut pas avoir la mangrove trop loin dans les terres, sauf évidemment au niveau des deltas où donc t'as ces fleuves où il y a à nouveau ce cycle de marée qui se retrouve. Et donc dans le Sénésaloum en particulier, donc, il y a tout un labyrinthe de ce qu'on appelle les bolons. Ce sont des bras de fleuves secondaires voire tertiaires qui eux-mêmes sont encore soumis à ces phénomènes-là. Et donc oui, on peut voir une bonne partie depuis la côte jusqu'à assez loin dans les terres où il y a de la mangrove qui pousse parce qu'il y a ce réseau hydrographique qui permet encore de le faire. Mais si le réseau hydrographique n'est pas là, on peut très bien avoir juste une très fine rangée de mangroves Et puis c'est fini. Et puis on arrive dans des arbres de terre ferme et des écosystèmes de forêt classique, si l'on veut, quoi. Par contre, donc en ce qui concerne le Sénégal en tant que tel, en fait, on est juste à la limite de la distribution. Donc il y a quelques buissons de mangroves qu'on retrouve déjà en Mauritanie. D'ailleurs, ça a failli faire partie d'un volet de notre recherche, d'identifier le premier arbuste de mangrove descendant du nord. On l'a pas fait pour d'autres raisons, mais
c'est un peu où est le début de cet écosystème, j'imagine.
Oui, c'est ça. En fait, déjà c'est changeant. C'est une étude qui a été faite il y a une quinzaine d'années, et c'est intéressant de savoir juste pouvoir mettre sur la carte un petit doigt en disant c'est là. Mais
et a priori c'est pas évident.
Oui, a priori c'est pas évident parce que c'est un premier arbuste. Il faut le voir, il faut être sûr que ce soit lui, la bonne espèce, etc., etc. Et puis le prochain n'est pas juste à côté, évidemment, comme vous disiez. Hein, c'est un gradient, donc il y a d'abord très peu d'arbustes qui sont en pas très bonne forme parce que justement ils sont
à la limite de leur écosystème,
oui, de conditions qui leur permettent de survivre. Et puis au fur et à mesure, on voit que ça se développe et donc il y a une densité de plus en plus importante, une taille de plus en plus importante aussi, et on arrive justement beaucoup plus loin, mais là je parle du Gabon, déjà des arbres de 60 mètres de haut,
c'est gigantesque,
avec une densité, on peut même plus pénétrer dans la mangrove tellement c'est grand, quoi.
Mais donc cette mangrove, elle est inépuisable, ça c'est ma première question. Et est-ce que nous ici, depuis la Belgique, et je me doute de la réponse, mais est-ce que nous ici depuis la Belgique, on a une influence sur cette mangrove?
Alors le côté inépuisable de la nature, ça c'est un mythe qu'on a eu en tant qu'humanité pendant des années, à juste titre aussi, parce que c'est grand, c'est majestueux, c'est imposant, la nature. Mais maintenant on arrive, on touche du doigt les limites d'à peu près tous les écosystèmes auxquels nous avons affaire, et la mangrove en fait partie. Donc évidemment on peut aussi saccager la mangrove en tant qu'humanité. Et même en tant que communauté, si on s'y prend mal. Donc non, c'est un écosystème fragile qui a besoin aussi de toute une série de paramètres pour survivre. Et une fois qu'on commence à chipoter avec ces paramètres, il y a un effondrement de biodiversité ou simplement de conditions de survie même, qui fait que les palétuviers n'ont plus les besoins vitaux remplis, donc ils meurent. Par exemple, typiquement, la mangrove au Sénégal, elle a été décimée dans la deuxième moitié du XXe siècle, non pas parce que les gens se sont dit collectivement « tiens, on va tout raser », mais juste parce que les conditions climatiques et les conditions de précipitation n'étaient plus remplies. Et donc la salinité a augmenté, ce qui a tué les palétuviers de manière entre guillemets naturelle, quoi. C'était une mort naturelle, mais c'était dans des proportions inimaginables, quoi. Désolé. Et donc pour en revenir à ta deuxième question, de si nous depuis la Belgique on a un pouvoir de nuisance sur les mangroves au Sénégal ou au Brésil, dans le sens où nous contribuons au changement climatique, et en tant que pays du Nord nous contribuons très fort au changement climatique, oui, nous avons cette responsabilité-là. Maintenant, c'est vrai que c'est pas nous qui allons extraire ce bois pour nous chauffer chez nous.
Non, j'entends bien qu'il y a l'utilisation du bois direct, ça on pourra peut-être en parler, mais on a évoqué les microplastiques. Mais donc, est-ce que ça, vous avez pu constater la présence de plastique, de microplastique, et est-ce que vous êtes des témoins finalement de cette dégradation de la mangrove?
Alors, les microplastiques, on n'a pas pu, nous, les constater en tant que tels, parce qu'il faudrait un équipement scientifique, d'ailleurs, qu'on aurait adoré avoir à bord, mais ça, c'est un peu cher à l'acquisition, donc on ne peut pas faire d'échantillonnage de microplastiques en tant que tels. Par contre, les plastiques, on les a vus absolument partout, en fait, sur la route, dans la mangrove et ailleurs. Il n'y a pas une destination où on n'a pas vu des plages saccagées par des déchets plastiques, en fait. Donc dans la mangrove aussi, je me rappellerai toujours de ce jour où sur un bateau on n'a pas beaucoup d'eau, donc quand on prend une douche, c'est une douche frugale. On va dans l'eau de mer, on se frotte et puis on se rince avec un fin filet d'eau claire une fois revenu sur le bateau. Mais la majorité de la douche, elle se passe dans le fleuve ou dans la mer.
L'eau potable, l'eau douce, elle est comptée sur un bateau.
Oui, tout à fait. Donc ça, on apprend vraiment
à faire
attention.
Ça, c'est une réserve que vous prenez de port en port.
Oui, on va souvent se brancher sur le système d'eau de la ville, en fait, hop, et on remplit nos tanks à eau, et ça nous dure quelques semaines. On a aussi un désalinisateur qui nous permet de créer notre propre eau potable, mais c'est vrai que ça reste limité. Et donc, du coup, on doit faire attention. Et je me rappelle de ce jour, je crois que c'était dans le delta du Siné Saloum, donc au Sénégal. On prend notre fameuse douche, on est dans le fleuve, on est en train de se rincer, et puis là, on voit vraiment une vague de déchets qui vient à notre rencontre.
Alors, pas sympa.
C'était pas super comme douche. Ce jour-là, je pense qu'on a pris un petit filet, on a essayé de récolter les déchets, de les mettre dans un sac pour aller les déposer sur terre après. On sait qu'il y a pas mal de projets comme ça, de clean-up, comme on dit aujourd'hui. C'est un petit geste, je pense que ça peut ponctuellement aider à déblayer certains sites, mais je veux dire, c'est pas nous avec notre petit sac qui allons régler le problème. Et c'est vrai que voilà, ces déchets-là qui viennent s'accrocher dans les branches, ils vont y rester parce qu'il y a pas du tout d'effort suffisant, je pense, que pour nettoyer l'ensemble de nos plages.
Donc ça, c'est un peu la partie internationale de nous, notre influence. Là, c'est la mauvaise influence du colibri, j'ai envie de dire. C'est nos petits gestes à nous de plastique qui peuvent se retrouver là-bas, entre autres, l'industrialisation aussi, j'imagine. Marlène, cette étude que vous réalisez, que vous avez mis en cours, qui est encore en train d'être réalisée, elle n'est pas vraiment biologique, c'est pas son aspect essentiel, c'est plutôt un aspect social, sociologique.
Tout à fait. En fait, la discipline qu'on applique à travers cette étude, c'est de l'ethnobiologie. Donc, c'est un terme compliqué pour finalement parler vraiment d'une étude presque socio-économique aussi sur les populations qui vivent dans cette mangrove et qui doivent l'utiliser et en survivre. Donc, c'est pas nécessairement une étude de sciences dures axée sur la biologie ou l'étude des paramètres physico-chimiques
ou d'une plante
en
particulier
ou de la plante,
exactement. D'un poisson en particulier.
Exactement. C'est vraiment une étude sur les gens, sur leur perception de la mangrove. Alors, on va sur le côté. On a aussi développé d'autres types d'études avec Yegor, justement plus sciences dures, avec des études basées sur la télédétection, donc détection satellite des canopées de mangroves, etc. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet et c'est quelque chose qu'on est encore en train de mettre sur pied.
Vous prenez des échantillons aussi ou je me trompe? J'ai cru lire ça.
Ah oui, alors ça faisait partie de projets qui ont été identifiés comme comme action possible
support,
à réaliser. Non, ça avait pour vocation d'être une étude à part entière. Donc on devait ramasser des propagules de mangroves, donc des graines de mangroves donc à la sortie des estuaires, voire même dans les océans. Et on en avait parlé avec le professeur du LB qui était très enthousiaste à cette idée. Mais par contre, en tant que navigateur, on a dû aussi mettre toute une série de réserves en disant un bateau, ça va quand même relativement vite une fois que c'est lancé en plein océan. Ça a une inertie folle, on peut pas
l'arrêter comme ça.
On peut pas l'arrêter et enfin, il faut vraiment une chance folle pour attraper une propagule qu'on pourrait peut-être voir juste à la surface de l'eau avec toute la réverbération du soleil sur les vagues, les vaguelettes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé des propagules à la sortie des estuaires. On a noté les endroits où on les avait pris, on les a stockés. Mais là où ça s'est mal passé, c'est que elles sont toutes pourries.
La conservation est difficile, j'imagine.
Exactement.
Mais donc, quelque part, c'est aussi chouette de dire ça, c'est que vous êtes plein de projets, en fait. Et donc, le projet ethno-sociologique, je sais pas si c'est le bon terme.
Ethno-biologique.
C'est le plus important, c'est celui que vous menez de front, mais vous êtes hyper ouvert à d'autres projets. On en revient toujours à cette idée du colibri. J'ai mon petit battement d'aile, mais il y a plein de colibris autour de moi, et si toi t'as envie un petit peu que je te donne du nectar, je t'en donne aussi. Et sur place, est-ce que la population, elle a conscience de cette richesse? J'imagine que c'est difficile, puisque ces gens, c'est leur bien, quelque part. Comment les populations que vous avez rencontrées réagissent à cet état de la mangrove?
Donc là, on rentre dans le vif du sujet. C'est notre étude scientifique que nous avons réalisée dans le Siné Saloum. Donc nous avons mis sur pied une équipe des scientifiques locaux, donc des étudiants de l'université de Dakar, qui ont été à la rencontre des populations du Saloum. On a essayé de quadriller la zone de manière assez dense. Et donc, ils leur ont posé des questions pour essayer de faire un tableau général, si l'on veut, des interactions des populations locales avec la mangrove au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent de son état de conservation, dégradation aussi, quels sont leurs besoins quotidiens qu'ils extraient de la mangrove, quelles sont selon eux les pistes d'amélioration, ce qu'ils aimeraient voir mis sur pied pour la conservation de cet écosystème. Il y a de tout, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont des fonctionnaires, qui vivent dans le Siné Saloum, mais qui n'ont jamais vu la mangrove de leur vie, et d'autres qui sont des pêcheurs, qui passent leur journée. Mais c'est très tabou sur place, parce qu'il y a aussi une série de lois de conservation qui, par exemple, interdisent d'extraire du bois de mangrove pour se chauffer, y compris du bois mort. En revanche, ce que nous voyons au quotidien, c'est que c'est quelque chose qui est utilisé par les gens pour la cuisine quotidienne, quoi. C'est dans les jardins des gens, des petits foyers où on les voit cuisiner presque à même le sol, quoi. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas encore réussi à comprendre et comment d'un côté il y a vraiment ce côté interdiction d'eux, mais de l'autre côté on se rend bien compte que les gens ont toujours besoin de cette ressource pour subsister. Maintenant, à nouveau, donc si on doit regarder les études scientifiques qui ont été réalisées auparavant, l'utilisation du bois, oui, évidemment, c'est une pression sur la ressource, mais ce n'est pas le critère numéro un qui a drivé cette destruction de la mangrove à laquelle on a assisté courant du XXe siècle. Donc, il faut aussi remettre ça dans son contexte. Mais par contre, voilà, on se rend compte que les gens, en fait, ce qu'on a voulu voir, c'était les gens, ce qu'ils nous disaient par rapport à des petites constatations du style, est-ce qu'il y a des espèces de poissons qui ont apparu ou disparu? Est-ce que la farm a coupé, vous avez toujours autant d'utilisation de tel ou tel fruit ou écorce pour tel ou tel bobo? Et donc évidemment, il faut aussi remettre ça dans un contexte de développement général, avec des dispensaires médicaux qui arrivent, qui rendent certains usages obsolètes tout simplement. Donc c'est pas que toujours une question de disparition de ressources, c'est juste une question de gens qui sont tournés vers quelque chose de plus efficace ou pas. Mais globalement, voilà, on peut quand même constater que des gens sont inquiets pour leur écosystème parce que c'est malgré tout leur maison, c'est leur protection, c'est leur assurance vie en une sorte. Et ils ont envie de voir des actions mises en place par des gouvernements, par des ONG pour protéger cet écosystème. Ils sont prêts à participer eux-mêmes. Mais par contre, il faut aussi se rendre compte qu'ils ont besoin de ressources pour survivre, et donc on peut pas leur dire maintenant on n'y touche plus, c'est fini, vous vous débrouillez et c'est comme ça. Donc il faut donner des alternatives crédibles aux gens, et il faut qu'ils se les approprient, ce qui n'est pas toujours évident. Et voilà, on est donc face à une situation qui prend du temps pour être résolue, améliorée. De manière générale, donc si on devait juste se focaliser que sur la superficie de la mangrove au Sénégal, dans le Séné Saloum, elle est en augmentation, ce qui est déjà un bon message. Après, il faut voir si les services écosystémiques sont remplis toujours de la même manière. Mais donc ça, là, c'est un deuxième débat. Quoi.
On n'a pas la qualité. Marlène, durant cette étude, est-ce que la population était derrière vous? Est-ce qu'elle vous a accompagné? Est-ce que vous avez senti un besoin chez eux?
En fait, cette étude, on l'a montée en deux temps. On a passé 3 mois avec Igor au Sénégal et en Gambie. Et pendant ces 3 mois, on a rencontré d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, notamment Chloé Salmon, qui est une chercheuse belge, et Radi Diallo, qui est une chercheuse sénégalaise. Et en fait, on les a incorporées à l'équipe de Sabali Expédition. Donc, elles sont pas montées sur le bateau en tant que telles, mais elles font partie de l'équipe. Et ensemble, on a décidé, en fait, que c'était mieux que ce soit pas nous qui allions sur le terrain interviewer les gens directement, parce que ça peut provoquer ce qu'on appelle le biais de l'intervieweur. En tant qu'Européens, arriver sur place et aller poser une question, par exemple, certaines questions de notre questionnaire, c'est « Est-ce que vous pensez que la présence de scientifiques européens est intéressante dans la zone ?» Ça biaise totalement le résultat. Donc, c'était important qu'on s'extrait de l'étude, en fait. Donc, nous, on était vraiment là en amont pour coordonner l'équipe. On a recruté 10 étudiants de l'Université de Dakar. On a levé des fonds pour pouvoir les rémunérer, etc. Et c'est vraiment eux qui sont allés sur le terrain avec la population. C'est des gens qui parlaient la langue locale. C'est des gens qui connaissent les mœurs. Et c'est vrai que nous, du coup, en amont, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre sur pied un formulaire qui soit vraiment contextualisé pour la zone, qui utilise un vocabulaire adapté aux personnes qu'on allait interviewer. Et on a évidemment révisé ce formulaire avec des personnes sur place aussi, avec des conservateurs de parcs nationaux sénégalais, etc. Donc on a vraiment essayé de faire ça comme ça, pour que la population ne se sente pas justement oppressée par nos questions. Par contre, c'est vrai qu'on a gardé ça aussi à l'esprit. Ce sont des populations où il y a pas mal d'ONG qui travaillent dans ces zones. Donc, ce sont des populations qui sont sollicitées souvent pour ce genre d'exercice. Et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas envie de rajouter un poids encore en plus à ces gens qui sont interviewés par tout le monde. Et il faut aussi avoir l'esprit que quand on vient comme ça poser des questions, ça génère toujours un espoir derrière. Donc vous allez aller poser la question à quelqu'un de voilà, comment penses-tu que la mangrove est traitée, de quoi a-t-elle besoin, as-tu besoin de voir des projets mis en place par de nouvelles ONG? En fait, les gens, ils ont beaucoup d'espoir, parce que souvent ça veut dire développer l'activité aussi économique locale autour de ces actions-là. Et donc nous, on doit faire attention aussi à ce qu'on renvoie comme message, parce qu'on veut pas
Parce qu'on suscite l'espoir si vous n'avez pas les moyens derrière pour agir.
Exactement. Et nous, notre étude, en fait, son but, bien sûr, c'est d'être publié dans des revues scientifiques. On travaille en collaboration avec des labos scientifiques de l'ULB et de l'Université de Dakar pour ce faire. Mais c'est aussi d'influencer, peut-être, si on a un peu de chance, les politiques en matière de gestion des mangroves et notamment les actions entreprises par les ONG sur place. De les conseiller, de les guider, d'expliquer, comme l'a dit Igor tout à l'heure, un petit peu voilà, quels sont les besoins ont été identifiés par les populations locales par rapport à leur propre environnement. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'espoir par rapport à ce genre d'études du côté de la population locale. Peut-être un peu de méfiance aussi, parfois, voilà. Donc je crois qu'il faut jongler un peu avec les deux.
C'est normal, on arrive peut-être, ma vision à moi, on arrive peut-être avec nos gros sabots, entre guillemets. Alors j'ai bien compris que vous avez tout fait pour que ça ne soit pas le cas, mais derrière, ils doivent quand même se poser la question, qui pose les questions, pourquoi, comment. Et même si encore vos actions et vos idées sont très très généreuses, et franchement, on peut les saluer.
Si je peux me permettre de rajouter par rapport à tout ça, donc au-delà du contact avec les populations, il faut aussi bien réaliser que donc le Sénégal est un pays avec un pouvoir étatique qui est quand même présent, avec un pouvoir coutumier qui existe aussi, et donc il y a toute une série de lois et de cadres dans lesquels n'importe quel chercheur, n'importe quel ONG doit s'inscrire, et donc en fait on ne débarque pas comme on veut dans un village avec le bateau en disant coucou on vient faire une étude, hein. Donc on a dû introduire des demandes de permis auprès des ministères. On a dû les obtenir avant de pouvoir aller sur place. On a rencontré des militaires qui sont en charge de la conservation du Siné Saloum qui est réparti en différentes zones administratives. Donc tout ça a vraiment demandé beaucoup de travail en amont, donc d'administration, de paperasse, etc. Oui. Et des autorisations qu'on a dû obtenir pour que ça se passe. Et enfin voilà, même si c'était effectivement quelque chose de très contraignant sur place, c'est aussi une bonne chose parce que ça montre que il y a une volonté de conservation et de contrôle de la part du pouvoir en place aussi. Ils réalisent aussi très bien que la mangrove est une ressource qui doit être non seulement exploitée mais protégée, et etc., etc.
Igor, on peut déjà avoir quelques idées de ce qui ressort de cette étude?
Oui, mais du coup, comme dans n'importe quelle étude scientifique, ce n'est pas évident, dans le sens où on constate quand même qu'il y a parfois des écarts entre le discours dominant, et puis on se rend compte qu'en fonction des villages ou en fonction des métiers exercés par les répondants, leurs craintes ne sont pas du tout axées sur les mêmes choses. S'il fallait ressortir quelque chose, c'est qu'on sent que ces gens ont besoin de soutien de la part de leur gouvernement, des ONG présentes ou même de la communauté internationale pour justement continuer à améliorer la protection de la mangrove. Donc ils savent très bien que ce n'est pas que à eux de le faire, même s'ils ont aussi cette volonté d'être le fer de lance de cette bataille, vu que c'est chez eux, hein, à juste titre, je pense, et ils veulent que les moyens mis dans cette bataille viennent aussi de l'extérieur, et que ce ne soit pas que à eux de porter ce fardeau.
Donc dans un premier temps, cette étude, elle confirme vos feelings, quoi. C'est ce que vous aviez ressenti au tout début de l'interview, on est allé et on a l'impression que ces gens avaient envie d'être encore aidés.
Oui, mais par contre, on n'a pas encore des conclusions claires sur justement la perception statistique entre guillemets du changement de la mangrove par les utilisateurs. Donc on ne sait pas si une majorité ou une minorité des pêcheurs constate une disparition de telle ou telle espèce de poisson ou plutôt, enfin, ce genre de questions, voilà.
Ah ben justement, parce que c'était ma question suivante, et ben vous l'introduisez super bien. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme ressources naturelles pour s'alimenter, je dirais essentiellement? C'est du poisson? Est-ce qu'il y a des sortes de légumes de mer? Je dis n'importe quoi, moi, je ne connais pas. Est-ce qu'on peut manger d'autres choses que du poisson qui vient de la mangrove? Et est-ce qu'ils mangent le poisson qui vient de la mangrove?
Alors le poisson, oui, clairement, c'est une grande activité économique d'ailleurs dans la région. La pêche est très importante et il y a des filets qui sont assez régulièrement aperçus le long des fleuves, qui sont tendus et qui vraiment récoltent les poissons au fur et à mesure de la descente du courant. Donc les poissons, c'est vraiment très important comme ressource alimentaire là-bas. Il faut aussi savoir que il y a pas mal de problèmes de surpêche au large par des gros bateaux internationaux, malheureusement, souvent des pêches illégales, et ça provoque d'ailleurs par exemple en Gambie, dans le pays voisin, ça peut provoquer une pénurie de poissons même jusque dans les fleuves.
Le gros déséquilibre qui est créé en océan avec la surpêche, finalement, on le voit et on le constate plus loin
dans les deltas,
dans les rivières.
Exactement. Exactement, ça a un impact direct, donc ça c'est un des soucis.
On parlait de filets tout à l'heure, est-ce que j'imagine que c'est pas tout le temps le cas, que les filets sont quand même plus devant la mangrove, mais est-ce que parfois il y a des filets qui sont tendus, et pas non plus forcément d'arbre en arbre dans la mangrove, mais peut-être un petit pêcheur local qui a deux arbres distants, je sais pas moi, de 500 mètres et qui tend un filet entre les deux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer? Vous l'avez vécu. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer?
Donc, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs quand on était pas au Sénégal, mais en Gambie, juste à côté. On a vu effectivement des pêcheurs qui tendaient vraiment leur filet d'arbre en arbre sur le côté du fleuve parce qu'il y a tellement de vie que fatalement c'est un endroit assez stratégique pour aller pêcher. Nous, avec notre bateau, ben on va effectivement s'immiscer dans cette mangrove à travers les bolons, comme l'a dit Yegor, donc ces bras de fleuve qui s'enfoncent dans la terre. Et c'était un sacré défi aussi parce que les bolons sont pas toujours très profonds. Il y a des bancs de sable qui se déplacent aussi sur leur fond. Et donc du coup, la première fois qu'on a été dans un bolon un petit peu plus délicat, on s'est empêtré trois fois avec le bateau dans le sable. C'était assez galère pour s'en sortir.
Comment on s'en sort, juste par curiosité, comment on se sort d'un banc de sable qu'on a accroché?
Alors deux fois, on a juste réussi à s'en sortir en faisant une grosse marche arrière.
Dans les mangroves, j'imagine que vous êtes en moteur.
Oui, on pourrait être à la voile dans certains bras de fleuve plus larges, mais malheureusement les plus petits, vous êtes obligés d'y aller au moteur, donc vous êtes très lent, vous essayez de prendre votre temps, comme ça, si jamais les fonds remontent d'un coup, au moins vous pouvez hop mettre une petite marche arrière et en ressortir. Par contre, une fois, on s'est vraiment bloqué pendant 20 minutes, en plus la marée était descendante, ce qui est un peu embêtant quand vous bloquez votre bateau quelque part. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc on vit sur notre bateau, c'est notre maison, mais on a notre voiture, à savoir notre petit dinghy, c'est ce qui nous permet de quitter le bateau et d'aller sur terre. Un dinghy, c'est comme un Zodiac, c'est vraiment un petit bateau gonflable avec un petit moteur derrière, hop. Et donc Yegor a sauté dans ce bateau secondaire. Moi, j'étais à la barre de sa balie, donc du gros bateau. Et en fait, moi, j'étais là avec le gouvernail en train d'essayer de nous sortir de là en faisant des mouvements de droite à gauche. Et Yegor, lui, en fait, a accroché une amarre sur la pointe du bateau avec le dinghy et essayait d'aider à l'exercice. On a réussi à s'en sortir après une petite demi-heure et on était contents.
Alors, on parlait des moments de stress tout à l'heure. Voilà un moment de stress dans un paysage, j'imagine, paradisiaque, mais un beau moment de stress quand même.
Ouais, alors après ce moment-là, heureusement, on n'était pas en train de risquer nos vies. Le stress est certain parce qu'on n'a pas envie d'abîmer notre bateau, mais pour nous, on n'était pas trop stressés. C'est vrai qu'il y a d'autres moments en mer qui sont un peu plus générateurs d'adrénaline, on va dire, parce que là, c'est vraiment notre sécurité personnelle qui est en jeu. Mais c'est vrai que bon, dans le Siné Saloum, on s'est toujours senti globalement en sécurité. On est dans un fleuve, il n'y a pas de vagues, il y a du vent, mais peu. Donc du coup, franchement, c'était assez sécurisant comme environnement quand même dans l'ensemble. Et tout à fait paradisiaque et idyllique, ça c'est sûr. Par contre, en termes d'autres produits alimentaires que les populations peuvent trouver dans la mangrove, il va y avoir toute une série de, par exemple, de coquillages d'huîtres. Les huîtres poussent sur les racines des mangroves. Alors ça fait partie d'un des projets qu'on a interviewé pour notre film. Et du coup, c'est super intéressant. En fait, ces huîtres, elles se fixent sur les branches des arbres. À l'époque, les personnes allaient couper les branches pour pouvoir se nourrir. Et alors, dans certaines zones, on tend carrément la branche avec les huîtres dessus sur le barbecue, enfin j'exagère, mais sur le feu, comme ça elles cuisent et comme ça on les consomme directement. Nous, on a découvert un super chouette projet avec des femmes d'un village qui s'appelle Nemaba, qui elles ont décidé de les cultiver un peu différemment pour ne pas devoir couper les branches de palétuvier en fait et pour protéger la mangrove. Donc elles les font pousser sur des espèces de guirlandes avec des ficelles sur lesquelles elles viennent attacher des coquilles vides d'huîtres qui ont déjà été consommées. Elles les trempent dans l'eau en les fixant sur des systèmes de pilotis et avec les marées en fait de nouvelles huîtres viennent se développer sur ces anciennes coquilles d'huîtres. Donc c'est assez chouette et ça permet d'alimenter le village et aussi de dégager un revenu économique pour ces femmes. Donc ça, c'est vrai que c'est un produit alimentaire assez utilisé. Après, en termes de légumes, pas vraiment, mais il y a une grande culture de miel. En fait, il y a de l'apiculture qui se développe aussi dans les mangroves. Donc ça, c'est pas, je vais pas dire que c'est une des principales ressources alimentaires de la population, mais c'est une activité qui fleurit de plus en plus et qui essaye de se développer parce que déjà c'est un miel extrêmement bon qui est aussi utilisé en pharmacopée. Donc c'est pas que d'un point de vue alimentaire. Je crois que au Sénégal, le miel avait vraiment une aura médicale et médicinale très importante. Et donc voilà, on a aussi eu l'occasion de rencontrer un apiculteur là-bas qui nous en a parlé et c'était vraiment vraiment très chouette. Par contre, voilà, en termes alimentaires, je pense que pour les mangroves, c'est plus ou moins tout. Après, évidemment, au-delà de la mangrove, on peut cultiver, on peut mettre en place des terrains agricoles. En revanche, dans le pays juste à côté, il y a également des rizières qui sont installées au cœur de la mangrove. de manière plus ou moins protectrice de l'environnement, ça dépend un petit peu des endroits, mais traditionnellement, on peut trouver des sites de rizières dans la mangrove parce que les limons fertiles qui se trouvent dans la terre permettent en fait finalement d'alimenter le site. Donc voilà.
Bah super, merci beaucoup. J'imagine aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais la mangrove, c'est une protection de la côte, quelque part. C'est comme, j'ai envie de dire, nos digues, j'en sais rien. Moi, j'essaie de me projeter par rapport à votre voyage et par rapport à tout ce que vous me racontez, mais si les arbres sont là, ils permettent sans doute qu'on ne rogne pas les terres, et que si les arbres, pas les tuviers disparaissent, bah quelque part, c'est la terre, la côte qui est attaquée. Je me trompe, Yegor ?
Pas du tout. C'est effectivement le cas. Donc, il y a une protection naturelle contre l'érosion, contre des événements extrêmes climatiques, donc les tsunamis évidemment, ou des tempêtes avec du vent très fort par exemple. Les mangroves ont aussi un rôle de filtration, donc ils ont la capacité de filtrer une certaine partie de la pollution d'eau, ce qui permet aussi malgré tout de rendre l'environnement immédiat des populations beaucoup plus agréable à vivre, hein. C'est très important, et donc bah voilà, ces actions mises ensemble font déjà que en plus de poissons et de branches qu'ils peuvent utiliser pour se chauffer, il y a cette espèce de bienfaits passifs dont on se rend peut-être pas compte immédiatement, mais qui sont malgré tout très importants, et au-delà de ça, économiquement, ça chiffre très 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 vite à de centaines de millions d'euros ou de dollars.
On se dirige tout doucement vers la fin du podcast quand même. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez raconté. J'ai envie, moi, de vous poser la question, toujours dans l'idée de ces petits gestes et de ces grands gestes. Et puisque vous avez pris votre bâton de pèlerin, non seulement pour faire des études, mais surtout pour les communiquer à nos têtes blondes, hein, j'ai envie de dire, à nos enfants, c'est quand même la chose la plus importante qu'on ait devant nous. Comment réagissent les enfants lorsque vous leur diffusez votre reportage et à l'issue de votre activité jeu? Comment les enfants ressortent de ces événements, j'ai envie de dire, c'est un événement, hein, venir voir deux personnes, même si elles sont belges, mais qui ont pu aller jusque dans la mangrove de manière encore à l'aventure, quoi, quelque part. Vous n'avez pas pris l'avion, vous n'avez pas pris un paquebot pour y aller. Comment ils réagissent, les enfants?
Ça reste malgré tout des pré-ados ou des ados, donc ils sont...
On reste réalistes.
Voilà, ils sont dans un cadre scolaire, dans le cadre d'un cours. Évidemment, ça change un petit peu. Ils sont contents de pouvoir se mettre en arc de cercle, d'écouter deux vieux venir leur parler des aventures en bateau. Donc ça change un petit peu du contexte habituel. Mais malgré tout, on leur demande un travail à produire à la fin, etc. Donc voilà, hein, y a toujours des gens qui dorment sur leur banc à l'arrière, et d'autres qui sont beaucoup plus participatifs.
Ah, Igor, vous cassez toute mon utopie.
Ah non, mais justement, j'en venais au point très positif. Justement, on a eu de très très chouettes interactions avec des gens, des gamins qui venaient nous voir, les étoiles plein les yeux, en disant « Ah, c'est vraiment super chouette ce que vous faites, c'est génial, etc. » Et l'interaction était d'autant plus belle que les professeurs venaient nous voir après avec de grands yeux en disant « Cela ne participe jamais, je ne sais pas ce qu'il les prend.
Voilà, » voilà.
Et tout d'un coup, j'ai vu de la vie dans leurs yeux, c'est génial, c'est chouette, faut continuer à appuyer sur dans cette zone-là, quoi. Donc ça, c'est par rapport au contexte de l'activité en général. Maintenant, par rapport aux questions du changement climatique et de ces écosystèmes qui sont soumis à des pressions terribles, Marlène, tu me corrigerais si par après, mais moi j'ai senti qu'il y a une très forte différence dans la réaction en fonction de l'âge des ados auxquels on s'adressait. Donc on a eu l'occasion de parler avec les deuxième, troisième et quatrième secondaires, et on sent déjà que donc dans ces deux années de différence, ils ont mûri, ils ont
prise de conscience différente.
Plutôt leur approche a changé. Ce ne sont plus des enfants qui, mais pas spectateurs, mais qui vivent juste la manière dont leurs parents disent de vivre et de faire les choses, à des ados qui commencent à remettre les choses en question, à se former leur propre opinion, et qui aimeraient faire les choses d'une manière différente aussi, mais qui malgré tout n'ont que 15 ou 16 ans toujours, donc ils sont toujours inféodés au rythme de la maison et du foyer familial.
Ah, j'aime bien votre vision très très réaliste, hein, pour avoir des ados à la maison. Mais ok. Mais donc quand même, c'est très chouette en fait ce que vous me dites, parce que quelque part ici on est pour parler d'écologie, mais vous dites que cette aventure qui a vraiment un caractère écologique, ça permet aussi de réveiller peut-être une conscience sociétale, peut-être plus sociologique. Alors Marlène, quelle est votre position à vous?
Ben, je pense que, en tout cas avec les jeunes avec lesquels on travaille, on sent que cette conscience elle est quand même déjà là d'une certaine manière. Moi à l'école, en secondaire, on parlait pas de ces sujets-là. Et voilà, c'était quoi, il y a 15 ans, on parlait pas de ça à l'école. Et aujourd'hui, on sent que c'est quand même un sujet, et c'est aussi un travail fait par les professeurs de sciences qui essayent d'amener ça sur la table. Et on sent vraiment que c'est un sujet qui touche les jeunes. Donc, je pense qu'à travers ces ateliers-là, je pense pas qu'on leur apprenne qu'il y a un problème et que en fait il faut faire attention au climat et à l'environnement. Mais par contre, je pense qu'on permet de mettre des exemples peut-être très concrets en parlant de certains écosystèmes peut-être moins connus, typiquement les mangroves. Ben souvent, on demande au début des classes qui connaît les mangroves. Il y a toujours un ou deux, ou alors il y a vraiment eu un prof de sciences particulièrement emballé par la question qui leur a appris. Mais c'est rare en fait qu'ils connaissent ces écosystèmes-là. Et je pense que c'est important aussi. On essaye de manière encore légère parce que ce sont des jeunes adolescents, mais on essaie aussi de parler de justice climatique. On essaie de mettre ce débat-là sur la table aussi, les rapports de consommation en Occident et l'impact que ça peut avoir dans d'autres pays, notamment la ceinture intertropicale où nous on travaille, qui souffre directement de l'impact du dérèglement à cause d'actions qui sont très lointaines finalement.
C'est ça. Nous, on a voulu vous recevoir surtout pour ce projet Mangrove parce que pour moi, c'était vraiment atypique. Et comme vous le disiez, on connaît pas forcément bien cet écosystème, même si on en a une idée globale. Mais ce projet-là et sa balise, ça vous permet de drainer encore plein d'autres conscientisations, j'ai envie de dire, de rendre les choses palpables et dire oui, effectivement, ça se passe. Oui, je suis témoin de telle chose, je suis passé par là. D'ailleurs, à ce sujet, alors je m'écarte un peu du sujet, mais dans votre chaîne YouTube que j'apprécie beaucoup, vous avez aussi rencontré d'autres marins, vous parlez de ça, dont Grain de Sel, qui fait les allers-retours avec du café, du cacao, à son aise, avec un voilier et en petite quantité. Je pense que, Grain d'idée, ça permet aussi de parler même un tout petit peu de ça, même si ça, c'est quelque chose qui est florissant, hein, c'est une entreprise qui est connue quelque part, mais qui a un bon fondement écologique.
De manière générale, c'est marrant que vous ayez mentionné Grain de Sel et d'autres projets qu'on a pu mettre en évidence déjà ou qu'on voudrait mettre en évidence plus tard. Effectivement, donc, il y a cette histoire de, il y a des gens qui font des choses à leur niveau pour essayer de régler un problème bien particulier qu'ils ont identifié dans leur quotidien et qui les atteint très directement. C'est important, ce genre d'action. Maintenant, nous, ce qui est important, c'est aussi, donc, de contribuer à cette conscientisation, cette sensibilisation des gens qu'on espère de plus en plus large pour après faire un grand mouvement, citoyens, mais dont le but est d'atteindre justement les décideurs et à nouveau ces fameux cénacles où les décisions et le pouvoir se partagent. Moi, je pense que c'est très important qu'il y ait un cadre législatif, qu'il y ait un mouvement mondial, mais dont tout le monde fait partie pour que les vrais effets puissent être ressentis. Quoi. Ce n'est pas les femmes de Nemaba avec leurs tresses qui vont assurer à elles seules la survie de l'écosystème de la mangrove au Sénégal ou les chercheurs qu'on a pu rencontrer dans les Antilles qui vont à eux seuls résoudre toutes les questions de sargasses ou de que sais-je. Voilà, c'est un mouvement mondial qui doit être mis sur pied. Et on espère être un de ces petits trucs en plus qui permet de tendre vers ça. Mais on est réaliste aussi. Ce n'est pas les actions que nous montrons au quotidien dans notre chaîne YouTube ou Instagram qui, à elles seules, sont la panacée, quoi. C'est une petite
une goutte d'eau.
C'est une toute petite goutte d'eau. Et voilà, c'est vraiment une très belle formulation parce que je pense qu'on n'a pas vocation à se sentir plus que ça. Et c'est malheureux. Je pense que on a tous envie aujourd'hui de changer les choses, de trouver le truc qui fera que le monde entier va dans la bonne direction. Mais je pense que on ne peut qu'être réaliste par rapport à son propre impact. Et même au quotidien, en termes de consommation, etc., réfléchir à ces modes de pensée, c'est très important, et les petites graines sont très importantes, mais Yegor a raison, et je crois que c'est dans le cœur de nos débats souvent, c'est comment apporter ces messages-là, et cette réflexion, et ce changement à des sphères beaucoup plus impactantes aussi, parce que c'est là que ça va devoir commencer.
Je vous remercie parce qu'on termine super bien l'émission dans cette idée que le petit battement du colibri que vous réalisez quelque part dans la mangrove, mais que vous rapportez au niveau international et au niveau mondial, il a sa place, mais qu'il peut pas être tout seul. On met toutes les données de vos aventures sur la page Facebook de Graines d'Idées. Un tout grand merci les amis, merci Marlène et merci Yegor.
Merci Audrey.
Merci.